Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est amusant, je me comprends, de recevoir le jour de la mise en examen d'un ancien président de la République, une avocate pénaliste, écrivain et réalisatrice. Comme si, par une ironie du sort, c'est ce jour-là en particulier qu'avait choisi le réel, la fiction, la loi, le hors-la-loi, le burlesque et le tragique pour concocter un savoureux cocktail propre à inspirer quelques romanciers, pour autant qu'ils sachent passer au shaker de leur sagacité tous les ingrédients susdits. L'ironie, le pouvoir suprême, comme il en est des volailles, le sens du tragique, de l'humour caustique, de la loi et de son éventuel franchissement. Autant de qualités que possède notre invité, Anne-Laure Kerr, et sur lesquelles nous allons revenir dans quelques instants. C'est un peu comme si le hasard avait voulu que nous recevions un cheminot pour évoquer l'avenir du rail français, ou Gérard Depardieu pour la journée mondiale de l'eau que nous célébrons aujourd'hui, en même temps que la journée mondiale des allumes-cigares, des montants compensatoires, de la thanatopraxie, des verres à soie, de la combustion spontanée et de la prostate en milieu urbain. Voilà ce à quoi vous avez échappé. Je peux vous jurer que vous n'avez rien perdu au change.
France Inter.
Popopo.
Antoine Decaune.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Une préférence parmi toutes ces journées mondiales précédemment citées?
Combustion spontanée. Pshh. C'était mon interprétation du feu, merci.
Au menu de Popopop, Didier Paquignon, un talentueux peintre qui a compilé les faits divers les plus fous pour les traduire en peinture dans Le Cou du Lapin, livre dont nous allons parler tout à l'heure. Mais tout de suite, cette avocate pénaliste, écrivain et réalisatrice dont je parlais, Anne-Laure Kerr. Bonjour Anne-Laure Kerr.
Bonjour, je suis contente de ne plus être seule dans le bureau.
Voilà pour le menu, je laisse à une autre avocate, également écrivain, le soin de lancer cette émission.
Bonjour, c'est Constance Debray dans Popopop, et Popopop, c'est parti.
Popopop, après mon coup de marteau de président de tribunal, ça va partir. Ghislain, c'est le réalisateur. C'est quoi ce son de marteau de merde, là?
Désolé, mais ils ont pas ça en France, les juges, hein. C'est que dans les séries américaines, du coup, j'ai pris un son de l'émission de Valérie D'Amido.
Elle va être longue, cette émission, elle va être longue. Bref, Anne-Laure Kerr, ici, il existe une question qui fait encore plus mal pour le monde juridique que le juge est une femme, et encore plus mal pour le monde littéraire que Marc Lévy, et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi, la pop culture?
Alors, pour moi, je suis née en 1963, à une époque où les femmes se libéraient. Et donc ma mère préférait faire des courses dans les grands magasins plutôt que s'occuper de moi, et on me collait devant la babysitter absolue de l'époque, à savoir la télévision. Donc pour moi la pop culture, c'est ceux qui ont eu la télé comme babysitter. Voilà.
La boucle se boucle parce que mes deux parents travaillaient à la télévision à cette époque.
Et oui. C'était tout le monde a gardé tout le monde,
un petit
tout
peu,
ça.
D'une certaine manière, vos babysitters.
Mais exactement.
Bon, Anne-Laure Kerr, avant de faire plus ample connaissance, comme disent les jeunes, et de savoir ce que vous écoutez, écoutons ensemble L'Homme Pâle avec le morceau Pâle Pâle.
Le nom c'est Pâle, avec ou sans prétexte, on célèbre, on m'appelle Pâle, les bâtards qui m'aiment pas se forcent, j'ai juré. J'écoute rien mais je sais lire sur les lèvres et j'ai lu.
Un connard et un mec bien dans le même corps. Un panneau freehug et un flingue dans le même coffre. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme un ami, un amant, une idole ou un épicier ouvert à 5h du mat. Je n'abandonne jamais, si je suis toujours vivant, c'est que je suis le vainqueur du match. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. Vous avez besoin d'un sauveur, mais moi je veux que m'amuser. J'étais déjà bien égocentrique quand j'avais 10 balles et deux moins. Ça vous dit pas d'être un peu plus stylé? J'en ai marre de parler de moi.
Les autres secrets, quel est le secret que les hommes eux regardent? Maman m'a dit faut se faire discret, mais c'est tellement mieux quand on me regarde. C'est tellement mieux quand on me regarde. Laissez-moi faire ce que je veux,
ou bien je risque de le faire illégalement. J'ai pas pris mes calmants. Je dis que de la merde et tous les jokes kiffent. Mon hyperactivité ne fait que choquer. Depuis les signes chinois sur le jogging, ça vient de mes cellules comme un disque jockey. Je sais dire je t'aime et je te baise en plein de langues. Influencé par le monde entier dans mes disques, on se mélange et je vois des gens qui me disent Inch'Allah bientôt on est tous métis. Suis dis-moi si tu veux voir des monstres gentils. On n'a pas le nez vert, ton kebab est pas bleu, mais on y a caché quelques champis. Alors fais la fête avec nous, le curry dirait come, come, come. Que du love jusqu'à la mort, le nirvana dans le corps, comme Kobe. Pour trouver ce monde en main, faut de la drogue, certains sont morts en le montrant. Mais si les chefs de ce monde fumaient de la queue con, toutes les guerres s'arrêtaient en deux secondes.
Montre en main.
BTW la politique, pas sucer mon gros doigt. Je suis différent même des gens que je côtoie. Tu pensais quand même pas que j'étais comme toi. T'es obsédé par le liquide mais t'es pas en go. Me sors pas les mêmes conneries que tes parents gob. T'es défoncé tu repars en go. Mélange de pilules et de whisky, miskin. Tu vas finir comme Octave Parango.
Avec ou sans prétexte on célèbre. On m'appelle les bâtards qui m'aiment pas se forcent. J'ai juré. J'écoute rien mais je sais lire sur les lèvres. Et j'ai lu en deux mots.
Hey, hey, hey. Un connard et un mec bien dans le même corps. Une lettre d'amour et un couteau dans le même coffre. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme le docteur qui t'annonce que t'es zéro négatif. Un frère ou un super héros. Si tous les gens intelligents sont tristes, je préfère être un imbécile heureux. Je veux un monde où tout est gratuit. La société m'a rendu marteau. Je recompte tout ce que j'achète depuis mon premier McDo. Je voudrais bien donner des leçons, mais je suis qu'un simple tout bas. C'est dur d'avoir le poids de Tupac quand t'as le visage tout pâle.
C'est bien s'exprimer, mais il a connu la vie de white trash. Ce petit con est fier, des fois il crie, des fois il crache. Peut-être que la richesse ça rend pas heureux, mais crois-moi la pauvreté c'est un fleuve de douleur. J'ai oublié mon parapluie, pourvu qu'il pleuve des dollars.
L'homme pal-pal et le morceau pal-pal dans pop-pop-pop-pop-pop-pop sur France Inter. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un maître. Est-ce maître Yoda? Est-ce maître Capello? Est-ce maître Splinter des Tortues Ninja? Est-ce maître Gims? Réponse avec le pop-portrait. Alors, pop-portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop-pop-pop-pop!
Et c'est signé Charline Roux.
Objection! J'ai toujours rêvé de faire ça. En réalité, j'ai absolument rien à objecter, hein. Vous l'aurez donc compris, grâce aux multiples scénettes, nombreux jeux de mots et habiles suggestions égrenées depuis le début de notre émission, notre invitée est avocate. Mais pas que... Et loin d'eux, puisqu'elle est aussi un auteur et un personnage de roman propre et figuré. De son propre aveu, obtenu sans contrainte aucune, elle a grandi dans un milieu de voyous, un milieu qu'elle est encore amenée à côtoyer pour les besoins de son métier. Un métier dont elle se sert aussi pour alimenter ses écrits et créer un de ses héros, Christophe Leibowitz, avocat au centre de ses romans Grand XO, Toile de Maître et Commis d'Office. Ce dernier a d'ailleurs été adapté par ses soins au cinéma, une autre expérience qui servira de toile de fond, a comme au cinéma Petite Fable Judiciaire, une sorte de trait d'union entre deux professions, de l'art de nourrir ses écrits par l'expérience. Et c'est encore le cas pour La Daronne, le cinquième roman d'Anne-Laure Kerr, dont nous allons aujourd'hui longuement parler. Maître, vos conclusions. Ça aussi j'avais envie de le dire, voilà, ça me faisait plaisir.
Maître, vos conclusions.
Est-ce que vous avez oublié quelque chose, c'est ça?
Oui.
Sûrement.
J'ai un chien.
Comment s'appelle-t-il?
Chilzik, ça veut dire saucisse en breton.
Ah, c'est quel genre
c'est
de chien?
C'est un corgi, c'est pour imiter Houellebecq.
C'est votre seul point commun avec Houellebecq?
Ouais, je fume pas.
Anne-Laure Kerr, suite de cette audience pop avec votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Et pour le film, vous avez choisi The Warriors, réalisé par Walter Hill. C'est un film sorti en 79. Je vous plonge dans l'ambiance. Dans un New York des années 70, les gangs se partagent les bas quartiers de la ville. Cyrus, leader incontesté des tout-puissants Gramercy Riffs, décide d'organiser une réunion afin d'unifier les gangs et de lever une véritable armée contre les forces de l'ordre et la mafia. Très vite, la réunion dérape et Cyrus est assassiné en public. Nous y sommes. Vous voulez qu'on y soit encore un petit peu plus ?
Ouais, je peux raconter la suite.
C'est vrai ?
Ouais.
Attendez, moi je propose un extrait de la bande-annonce. À l'ancienne, écoutez.
These are the armies of the night.
Can you dig it ?
The Furies. The Boppers. The Hi-Hats. The Lizzies. The Turnbull ACs. The Gramercy Riffs.
Riffs! Yeah!
And these are the Warriors.
de Warriors, les guerriers de la nuit. Alors racontez-moi, Anne-Laure, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce film?
Ah, c'est pop culture, hein, ça, ouais. On va le voir. Hein. J'adore ce film d'abord parce qu'il n'a absolument pas vieilli. Moi, j'ai un fils qui a 18 ans. Il l'a vu quand il devait avoir 12-13 ans. Il était émerveillé. Il l'a regardé trois fois dans la même journée. Donc, ça vieillit pas du tout. Mm-hmm. Alors, je vous raconte la suite parce que comme ça... Enfin, en plus, c'est l'adaptation. Je ne le savais pas parce que j'ai regardé là aujourd'hui pour pas paraître trop conne. C'est l'adaptation d'une histoire, enfin d'un roman, on peut pas dire d'une tablette en marbre de Xénophon, auteur grec. Et ça raconte exactement les mêmes histoires. Donc, les Warriors ont rejoint tous les gangs de New York pour ce fameux sommet. Dans le Bronx, et celui qui prend la parole est assassiné. Et tout d'un coup, il y a le méchant avec une tête de rat qui fait tout d'un coup « It's the Warriors !» Il les monte du doigt et ils s'enfuient et ils doivent retourner sur leur territoire qui est à Coney Island et ils traversent tout New York la nuit. Tout ça et tous les gangs essayent de leur couper le chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent à Coney Island. Et c'est génial parce qu'on voit, c'est le métro la nuit, et surtout les costumes de toutes les bandes qui sont absolument géniales. Il y a des patineurs, il y a des nanas qui sont habillées en chat, ça a l'air comme ça très kitsch, mais ça l'est pas du tout. Non, c'est très très bien.
Walter Hill, oui.
Et tout ça par un réalisateur culte, Walter Hill, à qui on doit aussi les 48 heures après avec Nick Nolte et Eddie Murphy.
Oui, bien sûr. Moi, je me souviens en particulier de Streets of Fire avec Willem Dafoe et Michael Paré. Je sais pas si vous l'aviez vu, celui-là, qui était excellent aussi, avec la musique des Blasters. Enfin bon, voilà. Pour la série, c'est un monstre de la pop culture que vous choisissez et qui fait son entrée dans notre pop list au bout de 149 émissions.
C'est
grâce à vous, Anne-Laure, oui. Alors, vous le savez, je me dois de déclencher mon jingle mythique.
Oh putain, truc de ouf!
Eh oui, truc de ouf, car vous choisissez Star Trek, la série diffusée entre 66 et 69 aux États-Unis, créée par Gene Roddenberry.
Espace. Frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission? Explorer de nouveaux mondes étranges. Découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations. Et au mépris du danger, reculer l'impossible.
Reculer l'impossible, ça vous fait quoi de réentendre ce générique?
Je réentends pas parce que je le regarde tout le temps. écoutez, on est en 1966 quand cette série sort aux États-Unis. Deux ans après la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Un an avant l'assassinat de Martin Luther King, et vous avez sur le pont de l'USS Enterprise une noire femme, un russe pendant la guerre froide, un chinois pédé, un truc avec des oreilles pointues. C'est la série la plus progressiste. On n'imagine pas à quel point c'était progressiste en 1966, une série aussi populaire, qui montre quelque chose de tellement optimiste sur la fraternité entre les peuples, on peut le dire, puisque on a le capitaine Kirk qui se tape des femmes vertes, des femmes avec des queues, des trucs très 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 variés, et on est dans une fraternité absolue de toutes les espèces de l'univers. Moi, je trouve que on a vraiment pas refait, je suis désolée de le dire, quelque chose de si génialissime. Voilà.
Une vraie trekkie, une trekkie convaincue.
Et je vais aux avant-premières des films et je n'y vais pas avec un vêtement de trekkie. Il n'y a pas de convention en France, c'est bien dommage. Mais si on avait, j'y serais allé.
Faites-la, organisez-en une. Vous saviez que j'avais les oreilles de Dr Spock, enfin surtout la gauche. Regardez.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah,
ah ouais, ouais.
On n'est pas
mal.
Trop loin. Hein.
Ouais, pas mal.
Ah, oui. Alors passons. Pardon, c'était une parenthèse.
Bah, l'Iglon va me prospérer hein, dans ce cas.
Passons au livre. Vous choisissez L'Infini Comédiste, un livre écrit par David Foster Wallace. Alors dans ce livre, les USA, le Canada et le Mexique ont formé une fédération surpuissante et la société du spectacle a gagné. Les habitants ne vivent plus qu'à travers la télévision, les médicaments, l'ultra-consommation et le culte de l'excellence. Parmi eux, la famille Incandenza. Mais de dangereux séparatistes québécois en lutte contre la fédération traquent cette famille singulière pour mettre la main sur une arme redoutable, l'infinie comédie, une vidéo réalisée par James Incandenza qui suscite chez ceux qui la regardent une addiction mortelle.
Alors ça a l'air de rien comme ça, en fait, c'est, je vous en veux pas, vous avez pas lu le bouquin parce qu'il fait 1400 pages. Le New Yorker avait dit au moment de sa sortie, c'était en 92 jusqu'en 93, que c'est un chef-d'œuvre, et c'est l'est, hein, je vous le dis, c'est un total chef-d'œuvre, et que c'est vraiment l'écrivain de la fin du XXe siècle, au même titre que Salinger ou Fitzgerald, quoi. Mm-hmm. C'est un roman expérimental, extrêmement audacieux, d'une imagination, mais on trouve pas de mots, quoi. C'est parfois pas facile à lire. Mm-hmm. Il a été traduit en français assez récemment parce que c'est un livre maudit. J'ai lu qu'il y avait la directrice du Diable Vauvert qui avait acheté les droits, qu'elle a perdu parce qu'elle a eu un accident, que machin, qu'ils ont perdu. Il fallait mettre un traducteur pendant 2 ans salarié dans la boîte pour le traduire en français. Qu'elle a engagé beaucoup d'argent. Finalement, c'est l'Olivier qui l'a fait. Mmh. Et on a enfin la traduction en français. Je vous engage à le lire. Alors, c'est vraiment pour les gens de notre génération. Ça parle de la pop culture, vraiment de la pop culture, mmh, carrément. Ça parle de la fin de notre civilisation. C'est plein d'anecdotes, mais d'une imagination incroyable. Là, je viens de voir un film qui s'appelle The End of the Tour, qui est une fiction réalisée à partir d'un entretien d'un journaliste de Rolling Stone, de David Foster Wallace, parce qu'il s'est pendu en 2008, ouais. Il s'est suicidé. Et donc il apprend ça et ça raconte cette interview, c'est bouleversant, vraiment.
Vous aimez Véronique Ovalde? Attendez, c'est pas une question tout à fait dénuée de sens, c'est juste pour l'entendre lire un extrait de David Foster Wallace.
Oui, j'aime bien Véronique, et en plus de ça, c'est elle qui m'a conseillé ce bouquin.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Alors, écoutons cet extrait.
Si dans un élan de charité ou sous la contrainte du désespoir, il vous arrive de passer quelque temps dans les parages d'un établissement de désintoxication subventionné par l'État, vous apprendrez de nombreux faits exotiques. Vous découvrirez qu'il n'est pas nécessaire d'aimer une personne pour apprendre d'elle, que l'isolement n'est pas fonction de la solitude, qu'il est possible d'être tellement en colère qu'on voit réellement rouge.
C'est un extrait de l'infinie comédie de David Foster Wallace, le livre choisi par Anne-Laure Kerr, notre invitée. On finit avec la chanson, et alors la chanson, on se tait, on écoute. Alors attention, Heroes, évidemment, Bowie, mais pas n'importe quelle version de Heroes, une version à laquelle vous tenez tout particulièrement. Expliquez-nous.
Alors, c'est une version de 1978, c'est un live à Berlin. Pourquoi je tiens à cette version? D'abord parce que c'était le disque que j'avais acheté à l'époque. Donc, je viens dans la banlieue ouest de Paris, je m'emmerde à mort, on est en zone pavillonnaire, tout le monde s'emmerde, on se reçoit les uns les autres, on se prête les disques de David Bowie qu'on a achetés, on les écoute et on rêve. Et puis en même temps, cette année-là sort, je sais plus comment c'est, Die Kinder von Bahnhof Zoo. C'est, je crois, moi, Christiane F., droguée prostituée. Mm-hmm. Donc, on le sait tous, c'était un film totalement fédérateur de ma génération. À l'époque, surtout dans nos milieux classe moyenne de banlieue parisienne, il y avait malheureusement beaucoup d'héroïnes. Et j'ai pas mal de potes qui sont morts dans ma classe d'héros. Et ça raconte l'histoire de gamins qui s'emmerdent comme je m'emmerdais à l'époque au même âge et qui traînaient ensemble, qui prenaient de la drogue. Et il y a un moment où ils vont voir justement ce concert-là. Il y a cette chanson-là qui est la chanson du Heroes. Et moi, quand j'entendais cette chanson, ça me donnait un espoir monstrueux. Ça cassait les murs de ma vie de gamine de 18 ans, quoi.
Très bien. 17 ans, voilà pour votre pop list, Anne-Laure Kerr. Alors, je résume: The Warriors, Star Trek, l'infinie comédie et David Bowie. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Espace.
Vous apprendrez de nombreux faits exotiques.
Frontières de l'infini.
Que l'isolement n'est pas fonction de la solitude.
These are the armies of the night.
La mission, explorer de nouveaux mondes étranges. Et au mépris du danger, reculer l'impossible.
Et voilà, ça vous va ce petit mash-up, Anne Lorquer?
J'en reviens encore pas que je sois la première à dire que Star Trek est le ça et tous les temps.
Et vous l'avez extrêmement bien
sur le cul.
Défendu. Bon, restez-y parce que l'émission continue. On continue cette pop-up avec le groupe rock US, Alabama Shakes, et le morceau, c'est Future People.
France Inter, Antoine Decaune, Pop-Pop-Pop.
Alabama Shakes, Future People, c'est extrait de l'album Sand and Color. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Anne Lorquer, pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, soit qu'il n'ait jamais commis aucun délit, soit qu'il n'ait pas ouvert un de vos livres, je voudrais commencer par le commencement. Rien ne vous prédisposait à vous retrouver du bon côté de la loi. Un certain déterminisme familial aurait pu vous condamner à rester de l'autre côté. En un mot comme en mille, c'est vous qui pourriez vous retrouver mis en examen, même si vous n'avez, et je le déplore, jamais été présidente de la République. Pouvez-nous résumer cette histoire rocambolesque?
La mienne ou celle de
la
Sarkozy?
Vôtre. Non, non, la vôtre, je vous en supplie.
J'ai un père qui est né il y a très 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 longtemps, qui est mort maintenant, qui est né à une époque où il y avait très peu de lois dans ce pays, Il était né en 1918, il m'a eu très tard, et c'est des gens qui sont nés avant-guerre, juste à la fin de la guerre de 14, vous imaginez. Donc j'ai un arrière-grand-père qui fait la Commune de Paris, donc c'est des générations qui, on n'imagine pas, mais... certes, je suis une vieille peau, mais rien ne me prédisposait à avoir un arrière-grand-père qui fait la Commune. Bref, mon père était un pied noir quand il est arrivé en France.
Tunisien.
Ouais, après la guerre. C'était à une époque où tout était permis. Et voilà, donc les premières lois sur le trafic de stupéfiants datent de 1969. Je l'explique dans mon livre. Et sur le transport d'armes... je crois que ça n'existe toujours pas. Donc voilà, il y avait Djibouti, il y avait des endroits plein de barbouzes, très étranges. Il y avait la France-Afrique, tout ça. Et mon père, à l'époque, trempouillait dans tout ça comme pas mal de pieds noirs à l'époque. Mmh. Enfin voilà, donc avec des Corses et des Italiens et des Maltais. Et il a fait des affaires, comme on dit. Donc, mais c'était un homme extrêmement respectueux des lois. C'est-à-dire que quand il y avait une loi, il arrêtait. donc il n'a oui, jamais été un truand au sens vrai du terme. Il était très.
Non, il profitait du flou juridique, quoi.
Voilà. Mais okay. Donc il a pas mal baroudé partout.
Alors vous venez aujourd'hui nous parler de votre cinquième roman, La Daronne, qui paraît en format poche dans la collection Point, un roman couronné du prix du polar européen décerné par le journal Le Point, lui aussi un roman qui fait tache dans l'univers du polar. Il est drôle, il est sarcastique, il est acide, en un mot comme en mille, c'est un livre parfait. Vous êtes cliente de polar vous-même, une fois votre journée d'avocate terminée ?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est pour ça que je fais tâche depuis des années, puisque je commence pas à faire tâche maintenant. Hein, j'ai toujours fait tâche. Quand j'ai commencé avec Commis d'Office et tout ça, je faisais déjà tâche. J'ai toujours fait tâche. Le truc, c'est que justement, quand on lit pas de polar et que on a, moi j'aime bien le roman américain de la Beat Generation, quoi. C'est genre Harry Cruz,
Kerouac, Brautigan.
Voilà. Kirk Vonnegut, qui n'est pas de la Beat Generation, mais qui est un homme d'après-guerre, mais c'est fantastique. Il y a Palahniuk, que j'adore. Là, je viens de découvrir Foster Wallace, c'est pour ça que je le conseillais, parce que c'est vraiment une résonance de tous ces auteurs-là.
Pas de polar, en fait.
Voilà, pas de polar. J'aime beaucoup aussi les écrivains du 19e. Mon écrivain préféré de par-dessus tout, c'est Octave Mirbeau, parce que c'est d'un incisif et d'un moderne, mais incroyable. J'aime beaucoup Léon Blois, pas pour son côté cato, mais par sa hargne et sa méchanceté. J'aime beaucoup aussi les Goncourt, parce que c'est vachement bien, les frères.
Et donc, pas de polar.
Pas de polar.
La Daronne, votre roman, c'est l'histoire de Patience Portefeux, traductrice judiciaire de son état, qui du jour au lendemain se transforme en receleuse, dealeuse. Vous êtes avocate pénaliste dans la vie. Dans ce roman, est-ce que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite ?
Comment dire ? À vrai dire, tous les dossiers d'instruction que nous recevons, on les a en CD-ROM, donc... j'ai accès à un matériau énorme pour écrire mes polars, ça c'est évident. Et les écoutes téléphoniques qui sont dans ce roman ont une véracité que je n'aurais jamais pu imaginer. Enfin, un ton que je n'aurais jamais pu imaginer parce que c'est un agrégat de dizaines d'écoutes où j'ai pris les meilleurs, les morceaux choisis. D'ailleurs, bon, ça se voit, ça sent le vrai. C'est très drôle, il y a des très très grands auteurs. La plupart du temps, les écoutes téléphoniques, ça ressemble à « avec ceci, ce sera tout ». C'est un peu ça, c'est du commerçant. Mais de temps en temps, on a des grands auteurs. Donc voilà. Et puis bon, je connais bien le mécanisme judiciaire. J'ai trouvé une faille dans ce mécanisme qui étonne tout le monde. Et tout le monde dit « ah ouais, c'est vrai ». Et les auteurs de polar disent « merde, je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai, les traducteurs entendent tout en premier ». Avant les flics.
Mais ce qui est un matériau romanesque absolument génial.
Ouais, c'est une idée, mais de toute façon, un roman, quand vous sentez que vous avez une idée, c'est pour ceux qui font du surf, à un moment, vous prenez la vague et vous montez sur la planche et elle vous porte. C'est ça, l'idée romanesque. C'est un truc qui se pitche en une phrase, parce que c'est très simple. Le traducteur, il entend tout avant les autres. Tout d'un coup, c'est un pop-up ouais. pour le dire, un pop-up imaginaire d'un coup qui se développe.
Donc. Il entend tout avant les autres et il a un statut précaire, ce qui fait qu'on
oui, alors
on
le
peut
statut
envisager
précaire,
le basculement.
Je ne sais pas si c'est grâce à mon roman, mais depuis janvier 2018, les traducteurs sont, sont déclarés à la Sécu. Mmh. Et ont une retraite. Mais ce qui n'empêche pas que tous ceux qui ont... Enfin, tous les années avant, ça n'est pas, c'est pas rétroactif, donc toutes ces années avant, ils n'auront pas de retraite.
Si vous ne lisez pas de polar, vous en écrivez. Est-ce que pour vous, c'est une manière de jouer à la fois avec les mots et avec une matière première explosive, celle qui défile devant vos yeux tous les jours?
Moi, j'aime beaucoup la langue, dont on s'en aperçoit dans mon écriture. J'aime beaucoup manier... du langage extrêmement choisi avec du langage de racaille et mélanger les deux dans une espèce de melting pot verbal qui tape quoi. Voilà, ça c'est mon style et en ça je me sers de mon métier évidemment. Oui.
On parle de style, en fait, la Daronne, c'est un polar finalement assez court, assez ramassé, très dense, avec une intrigue très jouissive et qui appuie juste bien là où ça fait mal, hein, au système judiciaire et ses failles. Et vous réussissez à évoquer des thèmes divers et variés, à dénoncer quelques dérives. Comment on contient tout ça en 170 pages quand on est habitué justement à un verbe plus long, à des longues plaidoiries?
Bah, peut-être parce que je travaille en même temps, j'ai pas beaucoup de temps. Et puis parce que je pense, enfin, sans plaisanter, je pense que l'écriture nerveuse, c'est bien. Les gens, ils ont plus le temps de lire aussi. C'est allé, ça sert à rien. Et puis pour ce qui est des différents thèmes, c'est pour ça que j'aime David Foster Wallace et son roman L'Infini Comédie, c'est parce qu'il dresse un tableau total du corps moribond de notre société. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire à ma façon, de manière petite, mais j'ai plein de choses encore à dire, quoi. Mais c'est vrai que ça parle de vieillesse aussi, puis c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, pour la simple et bonne raison que je suis la prochaine sur la liste, mes parents sont morts, mes enfants sont partis de la maison. Moi et mon mari, on se retrouve comme deux vieilles araignées et là, on se pose vraiment des questions sur la fin de vie, sur la mort, voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas résolu dans les sociétés, dans nos sociétés contemporaines, et notre génération est la première qui fait face à ça avec l'habitude de choisir.
À vous lire, Anne Lorquer, je me suis demandé si l'écriture n'était pas une forme de consolation pour vous. Je sens une avocate désabusée, horripilée par les dysfonctionnements de la justice, en colère, et je découvre une écrivaine incisive, tranchante et remontée comme un coucou. Est-ce qu'il y a un effet de compensation?
Non, mais il faut bien voir que la clientèle que nous défendons n'est pas très glamour. On imagine toujours l'avocat pénaliste défendre des innocents. Je crois que j'en ai pas vu un seul en 20 ans. Nous faisons du pénal général et pas du tout du pénal des affaires ou du pénal de quoi que ce soit d'autre. Je pense que vous n'aimeriez pas croiser notre clientèle du tout. Mmh. Les trafiquants de stupes étant les plus, comment dire, les plus délicieux de l'ensemble. Voilà, c'est un métier très difficile et les... Le rapport entre la défense et sa clientèle a changé depuis les événements de Charlie Hebdo, parce que, je le dis, on a choisi ce métier pour son caractère intempestif et transgressif. Et il y a quelque chose qui a changé dans nos têtes. Et voilà, et je pense qu'il est temps d'arrêter. D'abord parce qu'on est vieux, puis parce que c'est très dur physiquement d'être avocat, parce qu'il n'y a pas de dimanche, de samedi, de vacances, on travaille 24 heures sur 24. Et puis, place aux jeunes, et puis j'en ai marre.
En conclusion. Sur la couverture du livre, une femme en trench, cachée sous un foulard et derrière des lunettes noires, avec à ses pieds deux gros sacs dont on ignore le contenu. C'est vous?
Ouais, c'est moi.
On avait un pari en cours sur cette couve.
Non, c'est moi, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Les éditeurs prennent des photos dans des trucs, des banques de données, c'est super déprimant. Donc j'ai décidé de faire la couverture moi-même. Oui.
Elle est très réussie. Hein.
Merci. Anne Lorquer, vous avez déjà fait ça dans un prétoire?
Je peux.
Essayez pour voir. Non. Ah, c'est pas mal.
Pas terrible.
Non, c'est un début, c'est une première. C'est de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour lancer des pop news. Pop,
Vous avez toujours rêvé d'être blond, flanqué d'un barbu bougon et de porter le pantacourt, bref, d'être Tintin, ce sera désormais possible, ou presque, sur vos smartphones, puisque le célèbre reporter né sous la plume d'Hergé va devenir un puzzle game sur vos écrans pour aligner des Milou, des Dupont, Théoudé, hein, pas de discrimination. Il va falloir attendre cependant 2019.
Alors qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Je n'ai pas mes yeux dans ma poche, moi, moussaillon. Oh, mille milliards de mille sabords.
Sonnez au bois, résonnez musette, envoyez les fanfares. Devant l'immense succès de ses concerts en petit comité à Broadway, Bruce Springsteen vient d'annoncer que Springsteen on Broadway était prolongé jusqu'au 15 décembre. Raison de plus, s'il en fallait une, de traverser l'Atlantique. Mission, le boss à New York.
Les points Springsteen atteints. Et on n'en finit plus de recycler pour vos oreilles ébahies. Cadeau aujourd'hui, la bande-annonce de Cobra Kai, la suite en série et 34 ans plus tard de Karate Kid. Mais si, vous savez, un ado du karaté, un vieux mentor aux méthodes étranges. Voilà pour le succinct résumé du tout premier volet. Maintenant, la nouveauté.
Thinks he can bring Cobra Kai back to the valley?
Yeah.
Not on my watch.
You want those kids at school to keep dumping things on your head? You want all the girls to think you're a wangless dork?
You're gonna be my karate teacher?
No.
I'm gonna be your sensei.
Et pour ce qui est de l'intrigue, des ados, du karaté, un vieux mentor aux méthodes étranges. Bon bah c'est Cobra Kai, la série, et ce sera sur YouTube Red à partir du 2 mai.
France Inter. Pop pop pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Karate Kid.
Merci Charline. Anne-Laure Kerr, vous restez avec nous avant d'accueillir le peintre et dessinateur Didier Paquignon. On écoute les Canadiens d'Arcade Fire avec Put Your Money on Me dans Pop 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 sur France Inter.
Never gonna let you go, even when it's easy.
Arcade Fire, Put Your Money on Me, c'est extrait de l'album Everything Now. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain slash avocate slash réalisatrice Anne-Laure Kerr, et vient de nous rejoindre le peintre Didier Paquignon. Bonjour Didier Paquignon.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes venu nous présenter Le Coup du Lapin, pépite pop dans laquelle vous recueillez les faits divers les plus loufoques que vous traduisez par des images incongrues. Au total, 87 monotypes pour autant de faits divers. C'est quoi un monotype ?
Je veux bien expliquer, mais vous n'allez pas comprendre grand-chose, donc mieux vaut...
Vous pensez que je suis con à ce point-là, quoi.
Bon, pas vous, mais en général, les gens ne comprennent pas grand... Pas. Il faut le faire faire pour qu'on comprenne.
D'accord. Alors, d'où vous vient cet intérêt pour les faits divers ?
Ah, bah, depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça. Non, ça vient à l'origine, en fait, c'est des lectures d'Eiffel de Thon, les lundis d'Eiffel, il y a 25 ans, voilà, et qui m'amusait. D'ailleurs, je l'ai rencontré, on en a parlé. Il a écrit un texte pour mon travail ensuite. Et voilà, et ça m'amusait beaucoup, et en fait... En fait, j'ai fait ça pour faire plaisir à ma compagne. J'ai vécu 20 ans avec ma compagne et ça la faisait rire et j'aimais beaucoup la faire rire. Et après, la journée de travail de peintre, je suis coupé en deux. J'ai le travail de peintre et le soir, je m'emmerdais un peu. Et je voulais la faire rire et puis ça a duré 20 ans, puis elle m'a quitté. Ça vous amuse aussi.
Bah oui.
Mais c'est vrai, l'année dernière. Mais ouais,
elle n'en pouvait plus des monotypes.
Elle en avait ras le bol des monotypes.
Elle voulait plusieurs types.
Elle voulait une autre vie, je crois. Voilà.
Vous épluchez toujours toutes les pages fédives dans les journaux ou vous avez maintenant des âmes charitables qui s'en chargent et qui vous envoient le matériau parce que c'est à devenir...
Artisanal. Non, il y en a plein. Il y a évidemment, il y a les amis qui m'en envoient, ouais. Mais il suffit de... Il y en a partout avec Internet. En fait, Internet a permis de développer un truc. À l'époque, il y a 25 ans, je regardais les journaux, mais là, il y en a partout.
Alors, précisons que ces faits divers sont insolites, décalés, mais jamais glauques ou sordides.
Non, jamais.
Une étrangeté, d'ailleurs, encore renforcée par le choix de l'illustration. Le coup du lapin, par exemple. Au départ, un lapin en chaleur qui terrorise un couple d'Autrichiens avant de se faire abattre.
Ils sont en Autriche, c'est normal. Non, jamais glauque, parce que j'aime pas contrairement à vous avez traité des affaires un peu lourdes. Moi, je veux jamais que ça glisse, parce que j'aime pas le morbide, j'aime pas ça, les enfants et choses comme ça, voilà, je veux pas toucher. J'en ai plein en stock, j'en ai 400, en fait, des histoires. Ouais. Là, il y en a 80 dans le livre.
87,
et il y en a 400, mais j'arrête toujours à un moment donné où je veux que ça fasse rire, vraiment, voilà, c'est de l'humour.
On entend bien ce que vous ne voulez pas, mais quels sont cependant les éléments qui vous sont indispensables pour faire naître l'illustration ?
Ah ben je lis le texte et puis ça me fait hurler de rire.
C'est ça, c'est le seul critère.
Et j'ai l'image qui arrive ou pas dans ma tête, et puis j'en ai en stock des images, et c'est toujours décalé comme vous avez pu le voir. Je veux jamais que ça... L'image n'illustre pas le texte, ni le texte. Il y a des fois l'image remporte sur le texte, des fois le texte est plus intéressant que l'image. Ouais. Ça, c'est un rapport est toujours décalé. Je viens d'exposer la Fondation Ferney-Branca dans l'Est à Saint-Louis, où j'en ai été. On a un lieu d'exposition merveilleux. Et il y a Glenn Baxter qui expose aussi, il y a Topor, il y a toutes ces gens qui sont toujours en décalage. Voilà, c'est ça.
Je prends un exemple, un fait divers que vous avez intitulé La Tromperie. Je cite, un sexagénaire qui tentait d'avoir des rapports sexuels avec une éléphante a été condamné à 15 ans de prison. Ouais. Surpris à moitié nu, juché sur une caisse derrière l'animal, Kim Lee Chong a déclaré que l'éléphante était la réincarnation de sa femme Wei. Je l'ai reconnue immédiatement à son regard grivois, a-t-il affirmé au tribunal de Phuket en Thaïlande. Qu'est-ce qui vous a plu à découvrir la vie ? Imaginez la scène.
Non, mais il y a plein d'histoires zoophiles comme ça. Je ne sais pas, ça me fait rire à chaque fois. Ça me fait hurler de rire de voir un type avec un éléphant quand même sur un tabouret. Enfin, je sais pas.
Alors, cette scène, vous l'illustrez avec un dessin représentant l'homme et l'éléphant assis sur deux petits bancs de dos. L'homme passe son bras derrière l'immense dos de l'éléphante.
Il y croit, lui. C'est ça, vraiment la réincarnation, je pense, le type.
Ouais, du coup, ça représente un couple un peu insolite, une image à la fois absurde et tendre.
Oui, mais il y en a un autre, un tatoué qui fait ça avec des voitures, lui, dans les pots d'échappement de voitures. Il y a des choses comme ça.
C'est-à-dire que là, vous injectez de la tendresse dans une scène qui est... C'est un mec un peu chelou, quoi, qui essaye...
C'est grave chelou, même, on peut dire. Mais ça me fait...
Non, mais je comprends ce que veut dire Antoine, c'est-à-dire que tous ces... Avec vos illustrations, le fait divers devient... Presque poétique par moment.
Mais c'est poétique, un type qui tombe amoureux d'un éléphant, je trouve ça très poétique, non, c'est pas...
Alors, je ne résiste pas à l'idée de prendre un autre exemple. Je cite, on connaissait le niqab, ce voile fendu qui ne découvre que le regard. Un dignitaire musulman saoudien recommande désormais le port du voile, ne révélant qu'un seul œil. Montrer les deux yeux incite les femmes à se maquiller pour se rendre séduisantes, a déclaré le cheikh Mohamed Al-Abadan.
Bah oui, bah ça c'est. Je griffe un peu, je griffe légèrement, mais même des fois plus fortement les religions, parce que je pense que si on est dedans, c'est un peu grâce à elles. J'attaque à peu près toutes les religions, catholiques, musulmanes, juives. Enfin, c'est tout le monde en a pour son grade, mais c'est pareil. C'est, je veux pas de polémique, je veux pas le voile. Moi, je trouve ça l'objet le plus épouvantable que voilà, ça me gêne moi personnellement.
Annelore, ce genre de fait divers, là, celui que je viens de citer, ça vous amuse d'abord et ça vous rend dingue après?
Je voulais dire deux choses. D'abord, la couverture. Alors, je sais qu'on est à la radio. Il y a un lapin, mais regardez bien, le lapin a le regard de Bruno Kremer. Regardez ce lapin.
C'est pas,
voilà.
C'est pas faux.
C'est pas faux. Ah, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'un jour, j'étais commis d'office au tribunal et il y a l'affaire qui était avant moi. C'était un type qui était... poursuivi pour exhibition parce qu'il baisait la terre.
Mmh. Oui, d'ailleurs, dans un roman de Michel Tournier, il y a Vendredi les limbes,
Moi, je l'ai vu en vrai.
Il faut bien la fertiliser, la terre, en même temps.
Voilà. Il y a ça aussi pour les catholiques. Il y en a pour les catholiques. Là, le pauvre curé qui a glissé et qui a dit « on se serre les couilles au lieu de se serre les coudes », je ne l'ai pas raté. Voilà. Et on croirait Frank Zappa assis sur une chaise. Voilà.
Je ne la décris pas, il y a des enfants qui écoutent.
Didier Péquignon, vous êtes aussi l'auteur d'une série intitulée Les Muses, pour laquelle vous avez demandé à quelques célébrités hommes de poser pour vous, torse nu, sans phare. Je note d'ailleurs qu'Antoine de Caunes, ici présent, n'en fait pas partie.
Je viens de lui demander un instant. Je l'ai regardé, mais il a l'air en plein état, en pleine forme. C'est bon, ça va passer.
Et ben, histoire de joindre vos deux marottes, muses, hommes et fédives, est-ce que vous avez songé à demander également à Christophe Ondelat? On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut
Je ne le connais pas, mais s'il veut, moi, ça dépend.
Vous n'avez pas de critères, vous?
Si les critères, c'est vraiment que ça, il y a quelque chose qui me plaise. Il y a des gens, non, ça, je ne ferai rien avec. Donc,
mais voilà, Antoine,
il m'est arrivé sur une table à dîner avec des gens et d'en voir un au bout de table en disant faut venir poser.
Vous, torse nu.
Voilà, j'ai l'homme le plus tatoué du monde, là, qui est un critique d'art suisse. Et il est tatoué de pied en cap avec des cornes. Il est extraordinaire. On a fait des jolis travaux. J'en ai fait 170 comme ça.
Je vais devenir votre muse, Antoine.
Et j'étais venu d'ailleurs à France Inter il y a deux ou trois ans.
Je serai votre prochaine muse.
Mais vraiment, hein,
je m'y engage ici. Bien, en attendant, revenons aux faits divers et à la radio. Écoutez celui-ci, c'était en 97 sur RTL.
Après coup, craquer l'allumette a été ma grosse erreur, mais j'essayais seulement de récupérer le hamster, a raconté Eric Tomaszewski au docteur stupéfié de l'unité de brûlure sévère à l'hôpital de Salt Lake City. Tomaszewski et son partenaire homosexuel, Andrew Kiki Farnum, ont été admis pour un traitement d'urgence. Alors, il y a la déclaration d'un du couple. J'ai poussé un tube en carton dans son rectum et j'ai glissé Ragot, notre hamster, à l'intérieur, a-t-il expliqué. Comme d'habitude, mon partenaire Kiki a crié Armageddon pour indiquer qu'il en avait assez. J'ai essayé de récupérer Ragot, donc qui est le petit hamster qui ne sortait pas. Il a donc regardé dans le tube et il a craqué une allumette pensant que la lumière pouvait l'attirer. C'est là où ça se complique un petit peu. À une conférence de presse, un porte-parole de l'hôpital a décrit ce qui s'était passé ensuite. L'allumette, en fin de compte, a enflammé une poche de gaz intestinal et une flamme a jailli du tube enflammant les cheveux de Tomaszewski, évidemment, et le brûlant sévèrement à la figure. Et elle a aussi mis le feu au pelage du hamster qui, à son tour, a enflammé une poche qui était un peu plus loin dans l'intestin, propulsant le rongeur comme un boulet. Alors, la finale, c'est que Tomaszewski a été brûlé deuxième degré, c'est pas drôle. Il a eu une cassée par l'impact avec le hamster.
C'est pas drôle du tout.
Non, c'est très difficile. Bah voilà, ça peut
plus inspirer, ça, non. Il n'y a rien à ajouter. Ouais.
Difficile à illustrer ou...
Non, j'ai fait un petit...
Ou ça se tente.
Ah non, c'est venu tout seul. C'est venu vraiment... Non, j'ai fait un pauvre petit rat. Je suis étonné d'être là.
Bon, voilà, je reprends mes esprits. Il est 16h54, l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Et j'y vais, je vais aller chercher un petit Buddy Holly aujourd'hui. Allez, c'est lourd cette trappe. Tiens, depuis quand il y a une porte ici? Et comment je l'ouvre, il n'y a pas de poignée? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça bouge.
C'est vivant? Mais c'est un éléphant. Et vous êtes qui? Simone? Ah, c'est vous l'éléphant du fait divers dont on parlait tout à l'heure. Et comment est-ce que vous avez fait pour entrer ici? C'est comme les bateaux à l'intérieur des bouteilles. Oui, je comprends mieux. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous préférez être à l'étroit ici plutôt qu'en liberté avec des vieux Thaïlandais qui veulent vous sodomiser? Oui, oui, je comprends mieux, oui. Non, c'est pas bête, mais là, vous êtes très, très à l'étroit quand même, non? Mais Henri, t'es où? T'es où, mon cochon? Oh, t'es coincé sous les fesses de Simone! Mon pauvre cochon, attends, je vais te sortir de là. Viens, viens, allez, allez! Allez!
Please don't tell, no, no, no. Don't say that I told you so. I just heard a rumor from a friend. I don't say that it's true. I'll just leave that up to you. If you don't believe, I'll understand. Call a girl that's been in nearly every song. This is what I heard. Of course the story could be wrong. She's the one I've been told. Now she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. A girl that's been in nearly every song. This is what I heard. Of course the story could be wrong. She's the one I've been told. Now she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. Peggy Sue got married not long ago.
Oh, quelle est belle cette version de Peggy Sue Got Married, Buddy Holly, c'est extrait de l'album Raven. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Merci, merci à vous deux de nous avoir rejoints dans le studio de Pop Pop Pop. Merci à Nélor Kerr. Je rappelle que La Daronne est édité en livre de poche dans la collection Point. C'est un polar absolument indispensable sur lequel vous devez vous précipiter. Merci Didier Paquignon, votre coup du lapin est à retrouver aux éditions du Tripode et je signale que vous serez en signature à la librairie Le Divan le 29, dans les jours qui arrivent, à 19h. C'est à Paris. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Sistiaga, il s'appelle celui-là, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, Monsieur Sistiaga. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy et Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, Louise Bourgoin et Pierre Guillois, auteur et metteur en scène de l'opérette Ordurière, opéra porno. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent les éléphants qui font des tutos, comment se servir de sa trompe sur YouTube. Ce qui signifie abonnez-vous à notre podcast.